Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence Sceptique Sinopop, qui est la première depuis le début du Covid.
Deux ans.
Ça fait deux ans, je pense. Voilà, c'est chouette de vous voir si nombreux et si nombreuses. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charlotte Barbier, qui nous vient de France, et qui est doctorante en sciences de l'éducation, et qui fait une thèse sur la pensée critique. C'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui.
Bah super. Bon, déjà, bonsoir. Merci à toutes et tous d'être là. Ça fait plaisir de faire une présentation devant des personnes en face de soi. Ça n'a pas été très facile ces derniers mois par rapport à cette question-là. Et donc moi, ce soir, je vais vous parler donc de ce que j'ai appelé la face cachée de l'esprit critique ou de la pensée critique. Je ne vais pas distinguer les deux pendant la conférence. Afin de questionner, en fait, déjà comment on peut le définir, cette pensée critique, esprit critique, qu'est-ce qu'on entend par là, en regardant comment ça a été travaillé dans la littérature scientifique, et aussi en interrogeant le contexte dans lequel, qui a fait qu'on s'est penché sur cette question de l'esprit critique, pourquoi ça a intéressé les chercheurs à un moment, et finalement à quoi ça nous mène comme vision de l'esprit critique. Mais du coup, avant de vraiment rentrer dans le vif de la conférence, vous vous demandez peut-être un peu plus... Qui suis-je? Il y a peut-être des personnes qui m'ont déjà vue par ailleurs, mais c'est peut-être plus simple quand même de faire un point sur cette question. Donc, comme l'a dit Jérémy, je suis doctorante en sciences de l'éducation. Ma thèse porte sur la manière dont l'esprit critique est envisagé par des enseignants, notamment les enseignants de collège, pour essayer de comprendre, concrètement, où est l'esprit critique dans l'éducation et quelle dimension on va avoir, comment est-ce que ça peut faire sens d'avoir ces différentes vision, ces différentes conceptions d'une même notion. Donc, je ne suis pas dans une perspective où j'essaye de dire qui a raison, qui a tort, mais vraiment juste de les comprendre et de les exposer, et c'est aussi ce que je voudrais faire aujourd'hui. Et donc, je connais un peu quand même le milieu sceptique, parce que je me suis lancée dans la vulgarisation en sciences sociales quand j'étais en licence. Je faisais une licence de coréen, de didactique des langues. Donc la didactique, c'est la discipline qui s'intéresse aux phénomènes d'enseignement-apprentissage. Et ensuite, je suis partie en sciences de l'éducation, qui est un domaine un peu plus large, qui s'intéresse à l'éducation sous l'angle à la fois de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de la psychologie, pour avoir vraiment un milieu interdisciplinaire. Donc, j'en fais notamment de la vulgarisation sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle « Les langues de chat », et aussi parfois en conférence, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça m'a poussée à rejoindre plusieurs associations, notamment le Café des sciences, qui est une association qui regroupe des personnes qui font de la vulgarisation en ligne, à la fois en vidéo, sous forme de blog, etc. Une association qui s'appelle Efficience, qui travaille plutôt sur les questions d'éducation, mais en lien avec la recherche et des acteurs de terrain pour essayer de faire en sorte que les personnes se rencontrent et puissent travailler ensemble. Et depuis quelques temps aussi de Skepticon, qui est une association de scepticisme, mais également engagée dans la promotion des logiciels libres, notamment. Donc j'ai découvert tous ces mouvements sceptiques, moi, grâce à YouTube, notamment avec des chaînes comme Hygiène Mentale, La Tronche en Biais, qui sont relativement connues en général. Et j'ai également mis le logo d'un autre collectif qui s'appelle Zététique Métacritique, qui est parfois un peu véhément sur les réseaux sociaux, par transparence, en fait, je l'aimais parce que je suis aussi assez proche de certains membres de cette association, on discute beaucoup, même si on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Donc là, c'est pour un peu vous dire d'où je parle, pourquoi je m'intéresse à tout ça. Et donc, en rentrant dans les milieux sceptiques, je me suis vachement intéressée à cette question de l'esprit critique qui était vachement mise en avant. Ça m'a pas mal passionnée et c'est aussi ça qui m'a poussée à choisir ce sujet de thèse, parce que c'est vraiment moi qui ai proposé ce sujet. Et j'en viens maintenant à lire pas mal de choses sur la pensée critique, mais aussi sur des sujets qui sont abordés souvent dans le scepticisme, comme l'effet de Dunning-Kruger, les croyances, la méthode scientifique, et de savoir d'où ça vient. Et du coup, j'en viens à avoir un regard critique sur la vulgarisation, parce que je connais la vulgarisation et je connais aussi les recherches, ce qui fait que parfois je me retrouve à être un peu en tension avec certaines personnes qui font de la vulgarisation sur ces sujets-là. Donc maintenant, avec ma thèse, j'en viens à être dans plusieurs projets. Donc à la fois avec l'association Efficience, on a ce projet de vidéo « Éduquer à l'esprit critique » qui va sortir en automne. J'ai fait du conseil pour, de façon gratuite pour une association qui s'appelle le Cercle FSER et qui va faire un gros projet de séquences pédagogiques autour de l'esprit critique. J'ai participé à la rédaction d'une grosse synthèse de la littérature sur l'esprit critique à destination des médiateurs et des médiatrices. Donc ça, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens dans le monde sceptique. J'ai aussi par exemple relu la méthode Z de Monsieur Sam pour l'aider à essayer d'être plus en accord avec les recherches. Donc tout ça, c'est plein de choses qui sont faites gratuitement. Et donc je me retrouve un peu maintenant à avoir un pied dans le monde de la vulgarisation scientifique, un pied dans le monde de YouTube, un pied dans les sciences sociales, un pied dans le scepticisme, un pied dans la recherche scientifique, ce qui en toute logique amène à la conclusion que je suis un poulpe. Mais à la base, j'étais pas venue pour faire des blagues, j'étais venue quand même pour vous parler un peu de recherche et d'esprit critique. Et ce que je vois, c'est que tout le monde aime l'esprit critique, apparemment. Bon, peut-être pas 100% des personnes, mais dans les discours, en tout cas, un peu tout le monde peut s'en revendiquer. Il s'agit quand même d'une notion qui est assez consensuelle, surtout dans les milieux un peu intellectuels ou de décision, que ce soit l'enseignement, la vulgarisation, la politique. Ça va être quand même très très difficile de défendre qu'il faudrait moins d'esprit critique ou que ça servirait à rien. C'est quand même extrêmement rare de voir des gens qui viennent affirmer qu'ils ont un esprit crédule. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai encore jamais vu. Donc, apparemment, tout le monde est doté d'esprit critique. Tout le monde trouve que c'est bien. Bon, génial. Bon, éventuellement, on a quelques personnes, parfois, qui vont considérer que esprit critique, ça voudrait dire être dans le négatif, tout critiquer de manière un peu malveillante. Mais là, c'est plus une confusion sur les termes qu'autre chose. Et à tel point qu'en fait, moi, je vois qu'aujourd'hui, même dans la sphère politique, tout le monde s'en revendique. Alors là, je vous ai mis un extrait d'un tract pour qui vient de Éric Zemmour, qui est un candidat d'extrême droite en France à la présidentielle, et qui, dans son programme, dit qu'il veut développer l'esprit critique des élèves, lui aussi, pour l'école. Apparemment, ça a l'air d'être quelque chose d'important. On a eu une commission mandatée par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui visait à répandre les lumières à l'ère numérique, parce qu'on aurait perdu apparemment l'esprit des lumières, et qui met en avant le fait qu'il faudrait faire de l'esprit critique une grande cause nationale. En Belgique également, je vois qu'il y a eu un plan d'éducation aux médias qui proposait également des actions d'esprit critique. Et en fouillant, je vois qu'il y a également des personnes plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, comme le candidat aussi à la présidentielle en 2017, Philippe Poutou, qui fait partie du nouveau parti anticapitaliste, qui avait affirmer que l'université devrait former des citoyens capables d'exercer leur esprit critique, de comprendre dans le monde dans lequel ils vivent, de se l'approprier véritablement, et ce peu importe la profession qu'ils exerceront par la suite. Donc c'est bien. Apparemment, on est tous d'accord pour dire que l'esprit critique, il faut le développer, et donc si on reste un petit peu à ce niveau un peu superficiel, on a l'impression qu'on est tous alliés. On va pouvoir travailler tous ensemble dans ce but commun de développer l'esprit critique dans la main avec Éric Zemmour et Philippe Poutou. Je ne suis pas totalement convaincue de ça. Mais c'est vraiment l'esprit critique partout et pour tout. Parce que même dans le reste de la société, on le voit avec peut-être ce compte que vous connaissez, Reopen 9-11, un compte qui défend le fait que les attentats du 11 septembre ont été prévus, je crois que c'est par la CIA, et donc qui viennent nous dire que eux, ils font des petits tests d'esprit critique, et que c'est eux qui ont le vrai esprit critique, on le voit souvent avec les conspirationnistes. On voit aussi dans Femmes Actuelles le fait qu'il faut développer l'esprit critique en famille, donc des magazines féminins qui ont l'air aussi d'accord sur ce point. On voit qu'il y a eu une revue anticapitaliste et antiraciste pour enfants qui, elle aussi, revendique d'avoir une ligne éditoriale qui favorise l'esprit critique, et en même temps, un magazine qui s'appelle Capital, avec Management, qui nous dit que on va faire preuve d'esprit critique pour en faire une vraie compétence professionnelle pour rendre les employés plus productifs. Là, ça pose à mon sens vraiment question si on arrive à avoir des choses aussi larges dans le mot esprit critique. Et ça devient même une nouvelle mode, à la fois en France, à la fois en Belgique, avec le ministère de l'Éducation nationale qui a commandité un rapport sur la question. On a une page du ministère dédiée à la formation de l'esprit critique des élèves. En ce moment, on a également en France une exposition qui s'intitule « Esprit critique, détrompez-vous ». On a l'AMSTI, qui est une association qui rassemble les musées, les centres de culture, et de, enfin, oui, de culture scientifique et technique en France, qui a créé un site atelier médiation et critique, avec plein de ressources sur cette thématique, avec beaucoup d'ailleurs de ressources sceptiques, zététiques, qui sont indexées dessus. Et puis moi-même, j'ai participé à la rédaction, donc je vous disais, d'un rapport sur cette thématique. Donc on a vraiment ce côté un peu effet de mode autour de ce mot. Au point où, moi, j'ai presque envie de dire qu'on arrive à esprit critique et toutologie, hein, les toutologues, donc les experts un petit peu en tout, qui viennent en parler. Donc, par exemple, je voyais cette table ronde organisée donc, par cette association qui rassemble les institutions muséales, où ils ont invité une physicienne, un philosophe des sciences, un directeur du journal The Conversation, qui est, un journal de presse dans lequel publient des chercheurs. Mais donc apparemment, il suffit d'être un peu scientifique pour faire preuve d'esprit critique et pour pouvoir en parler. Alors, mon but, c'est pas de faire une sorte de gatekeeping, de dire que seules les personnes qui ont publié sur cette thématique seraient habilitées à en parler. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est une thématique qui touche tout le monde et dont tout le monde devrait pouvoir s'emparer. Mais ça me pose question quand même, lorsqu'il s'agit de publier des livres visant à définir l'esprit critique ou qu'on en est dans des lieux de recherche, en tout cas en lien avec la recherche, c'est pas les chercheurs de cette thématique qu'on invite. Bon, c'est un peu embêtant. Et évidemment, quand on parle d'esprit critique, on a un autre milieu qui s'en revendique énormément, et puis c'est celui où on est aujourd'hui, c'est le milieu du scepticisme, de l'esprit critique, enfin de la zététique qui se dit de l'esprit critique, avec cet événement-là récemment, les journées de l'esprit critique, où la plupart des invités venait du milieu sceptique. Les rencontres de l'esprit critique, donc c'est écrit dans le titre, qui est avant tout un événement sceptique. On a eu des événements avec l'AFIS, où là aussi, c'était des sceptiques qui étaient invités. Jusque dans les URL, espritcritique.info, c'est un site qui parle d'esprit critique, mais qui est fait que par des chercheurs liés au milieu sceptique. L'Observatoire zététique, qui a pour slogan « Esprit critique, es-tu là ?» Donc apparemment, on est bien dans un milieu qui s'en revendique, et qui a même parfois l'habitude de faire un lien presque synonyme entre les deux. Donc j'avais déjà participé à un autre Skeptics in the Pub, mais cette fois à Paris, sur cette thématique, où avec un collègue qui travaille également sur cette thématique d'un point de vue universitaire, Gabriel Palares, on avait essayé de passer en revue certaines manières de parler de l'esprit critique dans le milieu sceptique qui nous semblaient un peu problématiques. Nous, notre but était vraiment de partir de la littérature scientifique qu'on connaît et pour montrer qu'il y avait certains décalages dans le discours, en tout cas, avec une partie des discours qui peuvent avoir des effets dommageables parce qu'ils sont un peu trop éloignés de ce qu'on peut voir parfois dans certaines vulgarisations, malheureusement. Et c'est toujours valable pour certaines personnes qui, de toute évidence, se fichent un petit peu des critiques, ça arrive. Donc, nous, on était vraiment dans cette idée un peu de vulgarisation et essayer de faire des liens entre le milieu de la recherche et les milieux sceptiques à travers ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder. Et donc, moi, j'en arrive à cette question un petit peu de ok, on parle d'esprit critique, mais pourquoi ? Si on parle d'esprit critique, si on est en train de défendre qu'il faut développer l'esprit critique, qu'on veut former l'esprit critique, qu'on veut aiguiser l'esprit critique, peu importe le terme qu'on utilise, c'est bien qu'on est en train de se dire qu'il y a un problème à résoudre et que l'esprit critique va aider à le résoudre. Et donc, quel est ce problème ? Est-ce qu'on est d'accord sur ce constat, sur ce diagnostic ? Et dès qu'on est aussi dans cette idée de former, de développer, on est bien dans une dimension éducative, puisque l'éducation, c'est pas seulement l'éducation des enfants, c'est pas seulement l'éducation à l'école, c'est également tout ce qui touche à la formation des adultes, c'est également l'enseignement, c'est la médiation, c'est la vulgarisation, c'est aussi l'auto-formation ou de l'éducation populaire éventuellement, ça peut passer par des associations, il y a plein de façons de faire de l'éducation. Et donc, on est bien dans l'idée qu'on va essayer d'améliorer l'esprit critique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en sociologie de l'éducation que dès qu'on parle d'éducation, on est dans une idée à la fois de reproduction de la société, de certains normes, et une idée de la transformer. On la reproduit parce que c'est bien en transmettant des savoirs, en transmettant des manières de faire, des normes, des cultures, qu'une société, elle se maintient. Sinon, si on ne transmet rien, on n'existe plus au bout d'une génération. Et en même temps, une idée de transformation sociale, parce qu'on est toujours en train de viser un idéal de citoyen, un idéal d'humain, qu'on a envie de créer. Et donc, quel est cet idéal quand on parle d'esprit critique ? Moi, je pense que questionner nos buts, questionner le problème qu'on veut résoudre, ça peut nous aider à mieux savoir ce qu'on fait, à mieux aligner les objectifs avec les pratiques, avoir un regard sur nous et du coup aussi comprendre éventuellement d'autres visions des choses avec lesquelles on n'est peut-être pas d'accord, mais au moins comprendre pourquoi il y a des accords et en quoi d'autres visions peuvent être cohérentes. Et du coup, que dit la recherche dans tout ça? Là, je vous ai parlé pas mal de... Bon, ok, les politiques en parlent, les gens sur les réseaux sociaux en parlent, les associations en parlent, et la recherche dans tout ça. Le problème dans la recherche, c'est qu'on a beaucoup trop de définitions. La littérature sur l'esprit critique, elle est avant tout en anglais. On parle plutôt d'ailleurs de critical thinking, donc pensée critique. Au Canada aussi, ça va être repris en général, ils se basent sur cette même littérature, donc dans le cadre canadien, on parle de pensée critique. La littérature française... Enfin, en tout cas, en français, elle est un petit peu isolée, il n'y a pas beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je vais surtout parler ce soir de ce qui se passe un peu dans le monde anglophone. Donc on a plein de définitions, on a trop de définitions, au point où il y a deux chercheurs qui ont publié un article qui parle du problème, ils parlent du méta-problème des définitions de l'esprit critique, en leur disant, les gars, vous êtes bien sympas à chaque fois d'amener des nouvelles définitions, mais avant d'en proposer une nouvelle, ce serait cool de nous dire... Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? En quoi elle se distingue des autres? Sinon, on a juste l'impression que vous posez un truc sorti de nulle part et on n'a pas compris pourquoi. Et donc là, je vous ai mis une liste, mais voilà, c'est seulement une partie de la liste. Hein, elle est beaucoup plus longue que ça. Heureusement, même si on a plein de définitions, on a des points communs, on a des éléments récurrents. Et donc, quand je me retrouve, en général, à devoir dire en 10 minutes top chrono qu'est-ce que c'est l'esprit critique, par exemple dans le cadre d'une formation ou autre, je vais forcément aller chercher les éléments un peu récurrents. Donc ce qu'on voit, c'est que l'esprit critique, déjà, c'est souvent pensé comme une construction théorique. L'esprit critique, c'est pas un truc qu'on a dans le cerveau, c'est vraiment quelque chose d'idéal. On est en train d'essayer d'imaginer la penseuse ou le penseur critique et de se dire quelle qualité cette personne doit avoir, comment est-ce que cette personne devrait réfléchir. Donc ça s'oppose à une idée de penser qu'il serait trop automatique ou intuitive, ce qui ne veut pas dire que l'intuition est une mauvaise chose et que c'est stupide, c'est pas du tout ça, mais juste que c'est pas la même chose. Donc c'est une pensée qui est réfléchie, qui s'appuie sur des raisons, donc des justifications. Ça vise à émettre un jugement pour décider quoi croire ou quoi faire. Et donc si on est sur cette question du jugement, on est bien sur la question de la réflexion, de qu'est-ce qui nous amène à juger, et pas sur le résultat. C'est pas tant, par exemple, la croyance qu'on a à un moment T, mais plutôt qu'est-ce qui nous a amené à croire ça. Et de voir si ce processus, il est correct ou non, et quelles normes il va suivre. Et donc, pour arriver à ça, on estime qu'il y a un ensemble de compétences, un ensemble de dispositions, un ensemble de connaissances qu'on va devoir mobiliser pour arriver à développer un peu cet esprit critique. Parce qu'on ne peut pas avoir un esprit critique à vide. Des fois, on a un peu tendance à imaginer que si on a certaines compétences intellectuelles, qu'on arrive à réfléchir de manière rationnelle, à bien argumenter, etc., c'est bon, on a l'esprit critique. Le problème, c'est que on ne peut pas réfléchir à partir de rien, on a toujours besoin d'avoir des connaissances. On a besoin aussi d'avoir des concepts, parce que juste avoir des informations éparses, ça ne permet pas forcément de donner du sens. Et donc, on a besoin de pouvoir les relier ensemble pour avoir un développement conceptuel. Donc par exemple, en science, on le voit beaucoup, il ne suffit pas de juste faire une expérience pour avoir de la connaissance, quoi. Il faut toujours avoir des théories, il faut pouvoir les organiser, ces connaissances. Et donc, souvent, moi, je me retrouve quand je présentais ces listes de compétences qui ont pu être identifiées par des chercheurs. Alors, ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais ça a un sens quand on est dans une démarche où on veut créer des actions éducatives ou des actions de médiation, de se dire, ok, je vais essayer de développer la pensée critique des gens, de quoi j'ai besoin, quelle partie de la pensée critique est-ce que je vise, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, ce qui est assez récurrent, c'est qu'il y a toute une partie qui concerne l'analyse des discours, identifier leur raisonnement, les arguments, etc. Évaluer les arguments, mais aussi en produire soi-même, produire une argumentation. C'est parfois un petit peu oublié, on a parfois tendance à dire « on va repérer les erreurs d'argumentation », mais malheureusement, faire ça, ça ne nous aide pas forcément à soi-même être capable d'expliquer notre raisonnement et défendre notre avis. Donc on a aussi évidemment faire preuve d'un raisonnement un minimum logique, évaluer la fiabilité des sources, des informations, et aussi faire preuve de réflexivité, être capable de s'auto-corriger, de se questionner, d'évaluer notre propre raisonnement. Et donc quand on fait ça, on est vraiment dans l'idée de... On définit pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en place des actions éducatives. Donc je ne suis pas dans la même démarche que peut-être que des philosophes, face aux définitions de l'esprit critique, vont essayer de trouver la définition la plus consensuelle, qui recoupe au mieux le sens commun pour que tout le monde soit d'accord. Moi, je ne suis pas forcément dans cette visée-là, mais parce que je suis aussi dans une autre discipline où le but, c'est quand même, au bout d'un moment, de faire de l'éducation, quoi. Et on a aussi des dispositions. Alors les dispositions, c'est parfois aussi appelé les attitudes, ou alors certains vous parlaient de qualité intellectuelle ou de traits de personnalité. Bon, il y a du vocabulaire qui va changer selon les chercheurs. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'on ne peut pas juste avoir des compétences, parce que si, par exemple, on sait très bien argumenter, on sait très bien repérer les fautes de raisonnement, et bien si on n'a pas aussi cette idée qu'il faut aussi, par exemple, être ouvert aux autres idées, que potentiellement on a tort, qu'il faut être curieux, bah on va se retrouver à utiliser un peu nos compétences pour gagner les débats. On va être juste dans cette idée que je vais imposer mes idées et je vais aller trouver les failles dans le raisonnement des autres. Ce qui, du coup, correspond peut-être pas à l'idéal qu'on se fait d'une personne qui est très critique. Donc là, voilà, on a un peu cette liste de dispositions, s'intéresser à la vérité, faire preuve d'humilité intellectuelle, voilà, d'honnêteté face à ses propres biais, à ses préjugés. Et donc, bon, bah, tout ça, c'est très bien, ça peut être très très utile, et quand on n'a que 10 minutes pour parler de pensée critique, voilà, ça permet au moins d'avoir une vision un peu globale et de se mettre un peu d'accord. Mais le problème, quand je fais ça, c'est que je parle que de l'approche majoritaire, je vous parle là des éléments récurrents, mais je dis jamais en quoi les chercheurs n'étaient pas d'accord. Je présente pas les controverses, je présente pas, du coup, bah, les visions un peu différentes, et surtout, bah, je parle pas des enjeux. Bah, je dis, ok, très bien, c'est des dispositions, mais... Pourquoi il faut faire preuve d'esprit critique à un moment bon, on pose comme si c'était une évidence, qu'il faudrait le développer. Et donc moi, je me posais moi-même cette propre question par rapport à mon travail, en me disant, mais oui, bon, je me suis lancée dans cette thèse parce que je trouvais que l'esprit critique, c'était important, mais c'est quoi ma motivation, en fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire preuve d'esprit critique? Et là, je tombe sur un article, pile un peu dans ces questionnements que j'avais, alors qui s'appelle « La construction de la pensée critique ». Entre la manière dont nous pensons et ce que nous croyons. Donc, d'un universitaire qui s'appelle Peter Lamont, et c'est un article qui fait vraiment de l'histoire de la psychologie, donc qui revient en fait sur les travaux et de se dire pourquoi, c'était quoi le contexte historique de ces travaux. Donc on peut, si ça nous fait plaisir, remonter à l'Antiquité et dire, ah oui, la pensée critique, bah, ça commence avec Aristote, Socrate, les grands philosophes. Mais bon, peut-être qu'effectivement, ils ont réfléchi à ces questions. Mais c'est une filiation qui n'a pas beaucoup de sens pour moi, parce que bah, ça ne nous avance pas énormément aujourd'hui, parce que déjà, ils ne parlaient pas d'esprit critique ou de pensée critique, ils avaient d'autres termes, peut-être de maïeutique ou de discernement. Donc est-ce que c'est vraiment la même chose que ce que nous, on entend aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Il y a un côté très centré sur l'Occident quand on fait ça. On est en train de se dire, ah ouais, nous, on a l'esprit critique en Europe depuis 2000 ans, et en Asie, il y avait certainement l'esprit critique aussi, dans le monde arabe également. Donc ce serait bien d'aller un petit peu regarder ces choses-là. Et puis bon, surtout notre vision moderne comme un objet scientifique qu'on peut étudier, bah là, clairement, les scientifiques, il n'y avait pas de psychologue pendant l'Antiquité. Donc, on va suivre un peu là les pas de Peter Lamont, qui est remonté aux premiers articles scientifiques sur cette question. Donc on va faire là un peu d'histoire de la recherche. Et on voit que dans les années 20, il y a eu un peu le début des prémices des recherches sur l'esprit critique. Donc, le contexte, c'était qu'on était aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, dans un contexte avec un sentiment, fort antisémitisme qui a mené à la Seconde Guerre mondiale et à toutes les horreurs qu'on connaît. Aussi une forte xénophobie, notamment un sentiment anti-allemand à cause de la Première Guerre mondiale. Et puis, évidemment, un racisme latent qu'on connaît avec l'histoire des États-Unis. Une montée du Ku Klux Klan dans les années 20. Là, je vous ai mis une image du coup d'une manifestation des membres du Ku Klux Klan à Washington en 1925. Et en même temps, ce mouvement un peu raciste qui était aussi suivi par une partie des chercheurs, avec du coup des travaux de psychologie qui s'intéressaient à la supériorité mentale de la race blanche. Donc par exemple, en allant regarder si les Noirs avaient un QI plus faible. Et donc en réaction, d'autres chercheurs ont voulu aller étudier les croyances des personnes, essayer de mesurer les attitudes avec cette idée que peut-être, en comprenant pourquoi les gens adhéraient à ces préjugés, on pourrait les faire changer d'avis. Et donc on a un chercheur qui s'appelait Watson, qui avait développé un test qu'il appelait de fair-mindedness, qui n'est pas facile à traduire, parce que c'est un peu cette idée d'avoir de faire un jugement juste. En français, ce n'est pas vraiment un test de justice, c'est vraiment essayer d'être juste dans ses jugements. Et donc, ce test est devenu, en fait, dans les années 30, un test de pensée critique. Donc à la base, on était sur un test qui vraiment mesurait un petit peu les préjugés, à quel point les gens avaient des préjugés ou non. Et c'est devenu un test de pensée critique dans les années 30, mais plutôt avec une autre vision, qui était que la pensée critique, ça devait servir à lutter contre la propagande. Alors en fait, il y a eu un gros développement à nouveau de la psychologie autour de toute la psychologie de la persuasion. C'était déjà le cas dans les années 1910, mais dans les années 30, ça a pris toute sa place. parce que une partie des chercheurs voulait rendre leur discipline utile. Donc utile à la fois pour avoir des financements universitaires, donc pour pouvoir continuer à perpétrer leur savoir, mais également avec un enjeu de prestige, un enjeu de légitimité par rapport aux autres disciplines. Et donc, ils se sont dit, si on est utile, si on est applicable, eh bien on sera vraiment reconnu. Et donc, une des applicabilités, ça a été de le faire dans la publicité et dans la propagande. Donc par exemple, avec plein de propagande qui devait pousser les personnes à rejoindre l'armée, donc beaucoup de propagande d'État. Donc voilà, rendre les pubs plus efficaces, etc. Et bien en réaction, à nouveau, là, on a eu d'autres universitaires qui se sont dit, non, il faut, vu ce qu'on est en train de faire à notre population, il faut leur donner des clés pour résister à la persuasion. Et en même temps, il y avait aussi une peur du communisme, en se disant, mais eux aussi, ils utilisent des outils de propagande, donc il faut que le peuple puisse résister. Donc, il faut qu'on leur enseigne de la pensée critique, avec cette idée que ça s'oppose. L'attitude critique, c'était ne pas tomber dans les pièges de la propagande, ne pas être trop suggestible. Et donc, là, ils ont voulu avoir les premiers tests. Ils ont créé les premiers tests de pensée critique où le but, c'était pas de vérifier si les personnes avaient un certain niveau d'esprit critique. C'était pas construit du tout de cette manière-là. C'était pas une échelle. C'était utilisé pour vérifier si des interventions pédagogiques permettaient bien de développer l'esprit critique des gens. Donc on mesurait avec cette petite échelle, avec ces tests, leur esprit critique au début, puis on mesurait à la fin pour voir si ça avait fonctionné. Sauf que pour pouvoir avoir un test standardisé, facilement utilisable, etc., ils ont dû se focaliser, forcément faire des choix, et ils se sont focalisés sur les compétences de logique. Donc on testait finalement avant tout la logique des personnes et la cohérence de leurs croyances. Donc il ne s'agissait pas de savoir si ce qu'ils croyaient était vrai ou faux, c'était juste de savoir s'il n'y avait pas d'incohérence entre les croyances et de voir s'il y avait du coup une forme de rationalité dans ce que les personnes étaient en train de dire. Et ça a continué un peu à se développer, notamment dans les années 60 et 80, quand il y a un ensemble de philosophes qui sont aussi intéressés à la question. Donc c'est une branche de la philosophie qu'on appelle la philosophie analytique, qui se focalise beaucoup sur tout ce qui touche à la logique, à l'argumentation. Et on a eu en fait la définition qui revient encore aujourd'hui beaucoup dans la littérature d'un philosophe qui s'appelle Robert Ennis, qui s'est dit la pensée critique, c'est une pensée raisonnable et réflexive, orientée vers la prise de décision quant à ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut faire. Donc raisonnable, c'est-à-dire une pensée qui s'appuie sur des raisons, des justifications. Réflexive, ça veut dire qu'il y a un retour de la pensée sur elle-même. Et le but, c'est quand même à un moment de décider si on doit croire ou pas un truc, si on doit faire ou pas un truc. Bon, ça paraît bien. Et puis ils sont passés de tests de logique formelle, donc vraiment on a des trucs genre si A implique B et que B, est-ce que ça veut dire que B implique A? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. À un champ qui s'appelle la logique informelle, où en fait là c'est des arguments, on est plutôt sur de l'argument en langage naturel. Et donc ce qu'on va retrouver dans tout ce milieu de la logique informelle, c'est tout ce qu'on peut appeler en français les paralogismes et les sophismes. Donc ils vont beaucoup s'appuyer sur ça. Il va y avoir le développement de tout un mouvement du critical thinking avec des dizaines et des dizaines de chercheurs qui vont s'intéresser à ça, des pédagogues qui vont commencer à faire des cours de pensée critique, à faire des manuels de pensée critique avec souvent des questions de bien repérer les sophismes, voir les erreurs de raisonnement en se disant c'est ça au fond la pensée critique. Donc en faisant un lien, la pensée critique c'est avant tout connaître la logique, c'est repérer les fallacies, donc c'est un peu les mauvais arguments quoi. Mais on peut se demander, et en fait, la raison pour laquelle ils se sont penchés beaucoup là-dessus, c'est parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, que le niveau des élèves était en grosse chute aux États-Unis. En fait, ils avaient des tests, qui s'appellent les SAT, où ça permettait de vérifier un peu le niveau de connaissance, le niveau aussi d'aptitude des élèves, notamment en mathématiques, en expression orale et tout. Et ils se sont rendus compte que ça avait énormément baissé. Il y avait vraiment ce sentiment que les élèves n'arrivaient pas à justifier leur point de vue dès qu'ils parlaient. Il y avait des sortes de blocages, même dans la compréhension des textes, etc. Avec un enseignement qui était beaucoup basé sur du par cœur, c'est vrai, en plus aux États-Unis. Et donc, ils se sont dit, mais il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, il y a eu une grande période de réforme éducative aux États-Unis en se disant, il faut dépasser cette question de la mémorisation, il faut vraiment aider nos élèves à vraiment réfléchir et à réfléchir de manière un peu critique parce que ça, c'était un petit peu inquiétant. Donc on était bien dans cette idée qu'il faut éliminer les erreurs de raisonnement, identifier la réponse correcte qui suit bien les bonnes règles de la logique, mais on n'est peut-être pas non plus sur des choses qui sont très applicables dans la vraie vie parce que repérer un argument fallacieux Enfin, en quoi un argument est fallacieux hors de tout contexte, c'est pas vraiment ça qu'on retrouve au quotidien, malheureusement. Et donc, en même temps, de l'autre côté, il y a aussi des psychologues qui ont aussi développé leur approche, où là, c'était plutôt une idée que la pensée critique, ça devait nous aider à lutter contre les idées fausses. En gros, il y avait cette idée qu'il y avait certaines croyances qui étaient de toute façon incompatibles avec une pensée critique. Et donc, finalement, en faisant des tests de croyances, on pouvait voir si les gens étaient critiques ou pas. Donc eux, ils étaient repartis un peu de ces mêmes rapports sur la qualité de l'éducation, etc., avec ce constat peut-être qu'il manquait de pensée critique. Il y avait aussi tout un développement d'un champ qui s'appelle le Public Understanding of Science. Donc, en gros, c'est un peu des tests de culture scientifique où ils se sont rendus compte également que les gens, en gros, avaient des connaissances scientifiques assez faibles. Et donc, voilà, ils se sont dit, il faut que les gens aient une meilleure compréhension des sciences, de meilleures connaissances en sciences. Ils ont fait le lien avec la pensée critique. Et c'était aussi le moment où on a commencé à faire de plus en plus de recherches sur la question des biais cognitifs, les heuristiques, de comment on prend des décisions et surtout pourquoi parfois on prend de mauvaises décisions, qu'est-ce qui nous mène à des conclusions erronées. Et donc tout ça un peu s'est mélangé avec une vision de la pensée critique qui s'associe à l'idée de pensée scientifique. Donc une focalisation après, du coup là, sur les méthodes et les techniques en disant faire preuve de pensée critique, c'est penser de manière méthodique, mais aussi du coup les connaissances dont on a besoin, c'est des connaissances scientifiques. Et comme les chercheurs qui travaillaient là-dedans, c'était surtout des gens en psycho, ils se sont dit, ce dont les gens ont besoin, c'est des connaissances en psycho. Et c'est resté un petit peu là. Par exemple, je voyais un article de 2021 d'une chercheuse qui s'appelle Diane Alpern, qui avait dit que pour elle, les compétences de pensée critique, c'est par exemple faire des calculs coût-bénéfice. C'est de reconnaître une régression à la moyenne, donc des connaissances de statistiques. C'est de reconnaître ses propres biais de confirmation. Et des compétences qu'on attendrait d'un étudiant en psychologie. Et donc, il y a tendance un peu à reproduire ça, avec aussi le fait que, par exemple, ce serait central dans les pensées critiques de savoir ce que c'est qu'un essai randomisé contrôlé, parce que c'est les méthodes qu'ils utilisent en psycho, en fait. Et donc, il y en a d'autres qui, après, sont encore partis dans un peu de cette idée-là de pensée critique, c'est avoir des croyances vraies. Si on a des croyances qui ne sont pas en accord avec les connaissances scientifiques, c'est qu'on manquerait d'esprit critique. Et donc là, en fait, on est passé à une confusion, puisque c'était pourtant ce que je disais au début, que normalement, dès la définition, on avait posé que l'esprit critique, c'était censé être avant tout une question de réflexion, de processus intellectuel et pas de résultat. Mais si on juge les croyances, on est en train de juger les résultats. Donc il y a une confusion qui a été faite. Et un peu, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il y a vraiment eu des liens, mais c'est aussi un moment où le mouvement sceptique américain s'est beaucoup développé et ils ont beaucoup puisé dans ces recherches-là. Pour vulgariser les questions de pensée critique. Et donc, il y a des liens qui peuvent être faits, puisqu'il y a aussi des notions qui viennent des fois du monde sceptique américain qui ont été repris en français. Mais donc là, il faudrait vraiment faire l'histoire de ces mouvements-là pour comprendre quels liens existaient, quoi. Mais aujourd'hui, on arrive à cette vision un peu plus complexe qui correspond à ce que je vous ai présenté un peu au début avec les listes de compétences, des listes de dispositions, avec un croisement des disciplines. On va aller piocher un peu dans la psychologie, dans la philosophie, dans les sciences de l'éducation, un peu de sociologie, un peu d'épistémologie, avec des approches qui vont centrer beaucoup sur l'argumentation, mais maintenant en contexte, en se disant que ce qui compte, c'est de comprendre les discours qu'on entend et pas juste de repérer des erreurs dans des phrases sorties de nulle part. Ça va être aussi de questionner notre rapport aux croyances, avoir des connaissances en épistémologie pour savoir comment est-ce qu'on crée de la connaissance. Les croyances épistémiques, c'est donc tout ce qui relève de comment on voit les connaissances. Est-ce qu'on estime qu'une connaissance, c'est forcément soit vrai ou soit faux? Ou alors est-ce qu'on se dit tout se vaut? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une idée où il faut évaluer une connaissance en contexte pour voir à quel point elle est robuste ou pas? C'est toutes ces questions-là. Il y a tout ce qui touche à ce qu'on appelle la métacognition en psychologie. La métacognition qui est, en gros, le fait de réfléchir à sa propre pensée, etc. Donc on a un peu tout ça. On est dans une idée de pensée critique dite au sens fort, c'est-à-dire qu'on s'intéresse en plus aux attitudes. Ça fait finalement une définition qui est assez lourde et qui comprend plein de choses, mais au moins qui s'appuie sur plein de recherches un peu différentes. Mais donc on arrive maintenant un peu à ça, mais on ne parle plus trop des enjeux, quoi. C'est un peu posé comme une évidence que l'esprit critique, c'est bien. On travaille dessus parce qu'on travaille dessus. Et tout le monde doit en avoir parce que c'est bien. Donc pour récapituler, parce que là, ça fait quand même beaucoup d'infos que je vous ai balancées. Ce qu'on voit, c'est qu'on a diverses approches, diverses disciplines, des gens, des fois, qui ne sont pas d'accord, qui font des oppositions entre ceux qui disent « faut avant tout enseigner les biais », ceux qui disent « non, faut faire les arguments fallacieux », ceux qui disent « non, les arguments fallacieux, c'est pas assez ». Voilà, qui... Voilà, ça a évolué dans le temps, mais même des anciennes approches, des fois, reviennent et restent quand même un peu présentes. Mais ça peut aussi faire des approches qui sont complémentaires. Voilà, qu'en tous les cas, on voit que les chercheurs ont tendance à faire une adéquation entre les standards de leur propre discipline et de ce que devrait être un peu la pensée critique. Forcément, on va juger la pensée critique des autres en fonction de ce que nous, on sait. Et que bah, les enjeux, ils sont quand même un peu liés au contexte social et historique qui a influencé aussi notre manière de penser la pensée critique. Et du coup, bah, tout ça, ça mène à dire que bah, la zététique, c'est pas l'esprit critique. Si je le présente, c'est parce que, bah, comme je l'ai dit au début, on a tendance à associer les deux. Pas mal. Sauf que pour moi, c'est une approche qui s'intéresse à l'esprit critique, c'est une approche qui peut contribuer à développer l'esprit critique. Mais si on dit que c'est la même chose, bah, on est en train de dire que tout cet ensemble de compétences et de dispositions, c'est la zététique. Ce qui, à mon sens, n'a pas trop de sens, puisque la zététique, est-ce que c'est pas plutôt une pratique, est-ce que c'est pas plutôt un mouvement intellectuel? Et surtout, il y a le danger de se dire, bah, si quelqu'un n'adhère pas à l'esprit, enfin n'adhère pas à la zététique, et qu'on considère que la zététique, c'est l'esprit critique, bah, ça veut dire que cette personne n'a pas d'esprit critique. Du coup, cette personne qui n'est pas d'accord avec la zététique, bah, faut pas l'écouter vu qu'elle n'a pas d'esprit critique. Et donc, on se retrouve dans un truc un peu circulaire, problématique, où on se dit, bah, faut pas écouter les gens qui sont pas d'accord avec nous, parce qu'en fait, s'ils sont pas d'accord avec nous, ils sont pas critiques. Donc là, c'est pour ça, moi, là, il me semble qu'il y a un glissement qui est un peu dangereux et qu'il faut bien faire attention à dire on s'intéresse à l'esprit critique, mais on n'est pas synonyme d'esprit critique. Et puis, ça risque de masquer aussi d'autres approches, par exemple, des gens qui s'intéressent plutôt à l'éducation aux médias et à l'information, ça peut être très très intéressant, qui est aussi une façon, à mon avis, de développer l'esprit critique. Et on ne peut pas non plus mélanger science et esprit critique, même si, à nouveau, c'est des choses qui se recoupent, parce qu'il y a plein de choses dans les démarches scientifiques ou dans ce qu'on peut appeler la pensée scientifique qui sont intéressantes. Bah, par exemple, voilà, on va considérer que réfléchir comme un scientifique, c'est réfléchir de manière rigoureuse, de rechercher la vérité, d'être honnête, avoir une forme d'humilité, ce qui relève un peu de l'esprit critique. Mais pour autant, on peut aussi le développer dans d'autres disciplines. Quoi. Je veux dire, les scientifiques ne sont pas les seules personnes à être honnêtes et à faire preuve d'humilité. Ce serait un petit peu, enfin, c'est pas sympa pour le reste quand même. Et donc, et puis même toutes les démarches scientifiques, elles nous apprennent plein de compétences qui sont très intéressantes. Hein. Mais quand on parle, voilà, le but des sciences, c'est quand même de produire des connaissances, de comprendre le monde. Donc on est dans une démarche qui veut décrire, alors que la pensée critique, on a quand même dit depuis le début, c'est prendre une décision sur ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. Et si on commence à dire que c'est la même chose, ça veut dire que décrire, ça revient à nous dire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que la science nous dit ce qu'on doit faire, et ça, c'est ce qu'on appelle bah, le scientisme. Et donc là, c'est un petit peu embêtant. Après, on peut assumer d'avoir une position scientiste, il y a des personnes qui se revendiquent du scientisme, mais il faut être conscient que c'est ça qu'on est en train de dire. Et du coup, là, j'ai déjà présenté plein de trucs, plein de gens qui ne sont pas d'accord, de la philo, de la psycho, machin. Et pourtant, bah, tout ça, on peut quand même le regrouper dans un seul groupe, qui sont les approches qu'on considère comme rationalistes, qui sont des approches qui font des liens quand même entre l'esprit critique et une notion de raison, et le fait de s'intéresser aux connaissances, à la fiabilité des connaissances et tout. On ne va pas être forcément d'accord sur quelles compétences sont les plus importantes, mais on a un peu le même cadre. Et là, on arrive encore avec des gens qui arrivent avec des approches radicalement différentes. Je ne vais pas toutes les présenter, je vais me focaliser sur une seule pour la fin de la conférence, qui est une approche qui considère que la pensée critique, eh ben, ça doit permettre de lutter contre des oppressions, contre des dominations, contre des inégalités. Donc je vous ai mis l'image de ce pédagogue qui s'appelle Paulo Freire, qui a travaillé notamment au Brésil dans les années notamment 50, 60, 70, dans une période de grosse pauvreté, parce qu'il y avait eu la grande crise de la Grande Dépression dans les années 30. Et lui, il avait pourtant une formation en droit, mais il s'est intéressé de fil en aiguille aux théories de l'éducation, il a été directeur d'un département, et notamment il s'est intéressé à l'alphabétisation des adultes. Et donc, ils se retrouvaient face à des personnes adultes dans une situation d'impuissance totale, parce que bah, dans leur vie, ils n'étaient pas capables de lire, qui n'avaient en fait pas de prise sur le monde autour d'eux, qui ne pouvaient pas prendre finalement très peu de décisions. Et il s'est dit, mais en fait, on les maintient, ces personnes, dans une situation où elles n'ont pas de pouvoir. Qui met ces personnes dans cette situation? Comment faire en sorte de les faire sortir de cette situation? Et donc, pour lui, pour faire ça, il faut développer une conscience critique. Donc, ce qu'il appelle conscience critique, c'est une conscience de notre place dans la société, c'est une conscience des rapports de pouvoir qui peuvent exister, c'est avoir une certaine connaissance de tout ça pour ensuite pouvoir agir. et finalement à aussi pouvoir évidemment réfléchir. Et donc il va beaucoup s'intéresser aux questions des systèmes de domination, des inégalités socio-économiques. Il va piocher dans ce qu'on appelle les théories critiques en philosophie, donc qui sont d'inspiration marxiste, donc on est vraiment dans cette idée de lutte des classes, etc. Et il se revendique du coup aussi, les personnes qui ont travaillé avec Paulo Freire, de la pensée critique. Ils utilisent parfois les mêmes termes. Ils ont développé tout un champ qui s'appelle la pédagogie critique. Et donc, il y a eu des critiques, notamment venant des milieux, des milieux féministes, en disant « oui, mais là, votre façon de penser les choses, c'est centré sur la lutte des classes, et alors les femmes, dans tout ça, on s'en fiche. » Des personnes qui ont dit « oui, et puis le racisme, vous ne l'intégrez pas, comment est-ce qu'on gère tout ça ?» Et donc, ça a donné lieu à plein de sous-courants de ces pédagogies critiques, qu'on appelle aussi parfois les pédagogies radicales. Donc, à nouveau, là, c'est un milieu qui n'est pas du tout unifié, avec plein de gens qui se critiquent les uns les autres, qui se tapent dessus un petit peu. Mais, en tout cas, qui s'est ouvert aussi aux enjeux de validisme, de sexisme, de racisme, de tous les trucs en isme qu'on peut imaginer. C'est beaucoup plus tourné vers l'éducation populaire, alors qu'avant, c'était vers les étudiants, vers l'université, où là, on vise plutôt des adultes, en dehors de l'enseignement scolaire, avec vraiment une volonté de transformer la société, avec ce qu'ils appellent une praxis, qui est vraiment une association entre la théorie et la pratique, dans le but de transformer les choses. Et donc, si je vous le présente, c'est aussi pour dire que c'est une manière très différente de voir les choses, d'envisager la pensée critique, mais elle ne vient pas de nulle part. Ça se base aussi sur des connaissances en psychologie, enfin, parfois en psychologie, mais surtout en sociologie, en philosophie. Et ça, a un sens, enfin, ça peut avoir un sens, même si c'est une manière très différente de voir les choses. Et forcément, quand on essaye de les mettre ensemble, on voit des grosses divergences. Alors d'un côté, il y a ceux qu'on peut qualifier de rationalistes, comme je disais, parce qu'ils se basent sur la raison. Et les autres, on peut les qualifier de matérialistes, dans le sens où il y a un intérêt pour les conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire où est-ce que les gens dorment, quelles sont les relations entre les personnes, qui a de l'argent, qui n'en a pas. Voilà, ce genre de questions. Donc d'un côté, dans la vision rationaliste, on se dit que l'esprit critique, ça doit se baser sur la raison ou la rationalité, que là aussi, on pourrait définir de plein de manières, ce serait une conférence en soi, je pense. On est plutôt sur une idée d'émancipation individuelle, parce que quand on fait ça, on dit bien que c'est une personne qui doit apprendre certaines compétences, qui doit développer son esprit critique pour ne plus se faire avoir, ne pas se faire manipuler, ou ce genre de choses. Que du coup, faut apprendre à évaluer la véracité ou la vraisemblance des affirmations, la fiabilité de nos croyances, comprendre ses discours, développer donc tout cet ensemble de compétences disposition. Et du coup, tout ça, ça va nécessiter des compétences un peu en épistémologie, mais aussi sur plein de sujets, selon les questions qu'on se pose et les thématiques qui nous intéressent. Alors que, dans l'autre approche, le but, c'est la justice sociale. Du coup, on est dans une idée d'émancipation collective. Ce qui compte, c'est le groupe, c'est pas juste la personne toute seule. Et du coup, il va falloir apprendre à évaluer les enjeux de pouvoir. À toujours considérer que le savoir, il n'est jamais totalement neutre, qu'il y a toujours des effets. Les discours, on les dit toujours dans un certain cadre et ils ont des effets sur les gens. Et donc, c'est pas juste une question de vérité. Il y a d'autres enjeux qui peuvent être présents. Et donc pour ça, il faut développer cette idée de conscience critique. Et du coup, ça demande des connaissances sur les structures sociales, sur leur histoire, mais aussi des connaissances qu'on peut développer un peu par soi-même. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, on vit dans une société. Et comme on vit dans une société, on a forcément conscience de certaines choses selon notre position sociale, avec des pédagogies qui vont par exemple essayer de mettre en lien des gens qui viennent de milieux sociaux différents, qui se parlent, pour se rendre compte un peu de qu'est-ce que c'est la vie de telle autre personne qui vit dans des conditions très différentes et voir ces enjeux un peu plus clairement. Et donc, il y a dans cet article-là, que je cite ici, de Burbules, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'aime bien le prononcer comme ça, de Burbules et Berck, de 1999, donc quand même, ça date quand même d'il y a plus de 20 ans, l'identification de ces deux types et de manière de penser l'esprit critique. Il donne un exemple que je trouve intéressant pour bien comprendre en quoi ça peut un peu vraiment s'opposer. Alors, lui, il donne l'exemple d'une personne qui commencerait, d'une étude qui a vraiment existé, qui visait à évaluer le QI des personnes en fonction de leur ethnie. Et donc, il y a eu des tests de QI qui ont été faits sur différentes populations, avec cette idée de voir est-ce que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Et donc, on peut se dire que dans une perspective où on est plutôt rationaliste, on va se demander déjà, est-ce que le QI, c'est vraiment une bonne mesure de l'intelligence? Est-ce qu'il y a d'autres mesures de l'intelligence? On va se demander, est-ce que cette étude elle a été menée correctement? Quelles sont les données? Sur quoi ça se base? Est-ce que les méthodes ont été respectées? Est-ce que les arguments qui sont donnés sont intéressants? Est-ce que les personnes, après, qui ont parlé de l'étude, sont expertes ou non de ce sujet? En fait, on va essayer de se poser plein de questions sur dans quelle mesure c'est fiable. Mais de l'autre point de vue, les premières questions qu'on va se poser, avant même de savoir si c'est vrai ou pas, Et même, on peut même se dire, on s'en fiche dans cette version de dire que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche, c'est pas la question. On va se poser la question de dire, qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'à ce moment, dans ce cadre, elle se pose cette question? C'est quoi le but? Qui a financé cette recherche? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats? Qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir en se posant cette question et en allant mesurer le QI selon l'ethnie des personnes? Et donc, on peut avoir des personnes qui vont se poser les deux questions. Moi, je suis plutôt de cet avis-là que toutes ces questions sont pertinentes. Et pour moi, toutes ces questions, elles relèvent d'une forme de pensée critique. Donc là, c'est vraiment mon avis. Mais en même temps, bah, des fois, ça va clasher quand on essaye de faire les deux en même temps. Et je voulais aussi montrer à quel point ça peut faire des tensions, parce que déjà, dans la littérature, ça a été identifié de s'accuser l'un l'autre. Donc, les matérialistes vont considérer peut-être que la vision rationaliste de l'esprit critique, elle est dans une forme d'idéologie dominante, c'est-à-dire qu'on ne va pas questionner les évidences. On va être aveugle au propre cadre ou te dire, bon, bah, si quelque chose est admis un peu pour tout le monde, par exemple que l'école, les personnes qui réussissent à l'école, c'est les plus méritantes, bah, on ne va pas trop le questionner parce que c'est dans le cadre dans lequel on se trouve. Qu'il y a une idée de fausse neutralité en se disant, oui, mais moi, je regarde juste si c'est vrai ou si c'est faux. Pour eux, ça va être considéré comme masqué des enjeux de pouvoir. Et donc, non, on n'est pas neutre quand on est en train de se dire, est-ce que le QI des Noirs est plus inférieur, c'est vrai ou non? Bah non, c'est pas neutre de se poser cette question. Ils vont considérer que c'est néfaste de séparer trop facilement les faits et les valeurs. Et que du coup, on peut se retrouver à avoir une forme de pensée critique qui va être utilisée à des fins potentiellement néfastes si on ne fait que ça. Et puis à l'inverse, pas forcément, les rationalistes vont considérer que les matérialistes sont dans une forme d'endoctrinement, en leur disant oui, mais du coup, si on n'est pas d'accord avec votre vision de ce que doit être la société, de votre vision de l'égalité, dans ce cas-là, on n'a pas de pensée critique. Donc les gens qui ne pensent pas comme vous n'ont pas de pensée critique. Et là, je trouve que c'est effectivement aussi un argument très intéressant de dire, est-ce que vous n'êtes pas en train d'empêcher les gens d'avoir des conclusions différentes des vôtres? De dire, il y a un manque d'impartialité parce que vous n'allez pas prendre en compte certaines positions. Qu'il y a une politisation abusive de la pensée critique en disant oui, mais des fois, il n'y a pas dans le jeu de pouvoir. Ou est-ce que des fois, on a le droit de se dire c'est pas ce qui m'intéresse dans cette controverse? Et qu'on en vient à avoir un risque de considérer comme critique donc que les personnes qui adhèrent aux mêmes valeurs. Et moi, je trouve que des deux côtés, c'est des arguments qui peuvent être pertinents dans certains cadres et que je trouve que c'est intéressant de comprendre la logique de chacune de ces visions, de voir comment on peut les rassembler ou pas. Parce que du coup, même dans la recherche, il y en a qui sont juste totalement, qui ignorent totalement l'autre camp. Il y en a qui se détestent et qui vont s'envoyer des petits fions très sympathiques. Et puis, il y a ceux qui essayent de faire les liens. Et donc, souvent, dans les milieux rationalistes, ceux qui vont un peu s'intéresser à cette autre vision, ils vont considérer que c'est une sous-partie de l'esprit critique en disant « Oui, oui, s'intéresser aux enjeux de pouvoir et tout, c'est très bien, mais c'est une partie de l'esprit critique, c'est pas tout. » Et ceux de l'autre côté qui vont dire « Ah, mais s'intéresser à la vérité, etc. et... » la fiabilité des informations, c'est intéressant, mais c'est seulement une partie de l'esprit critique. Et donc chacun se considère quand même que sa vision est un petit peu supérieure à l'autre. Et c'est toujours intéressant. Et donc moi, je trouve qu'en fait, même cette tension, elle est présente un peu dans les milieux sceptiques. Et du coup, pour ça, j'ai pris un exemple d'illustration. Déjà, on peut nommer certains collectifs. Par exemple, j'ai nommé au début Zététique Métacritique, qui, à mon sens, est un peu dans... plus proche peut-être de cette vision un peu matérialiste des choses qui fait qu'avec d'autres associations sceptiques, ça clash forcément sur certaines questions, sur certains enjeux. Et du coup, cet exemple récent, c'était un billet de blog sur ce site qui s'appelle La Menace Théoriste, qui est tenu par Thomas Durand, alias Acerment d'Axe de La Tronche en Biais. Et donc, il avait fait un article invité d'une personne qui s'appelait Flavien Bardet, qui avait voulu parler de troubles dissociatifs de l'identité, donc il y a un trouble psychologique, psychiatrique, je ne sais pas exactement quel est le bon terme entre les deux. Mais voilà, en tout cas, il avait invité cette personne et il y a eu une énorme shitstorm, une énorme polémique suite à cet article. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on trouvait des critiques des deux ordres. D'abord, il y a eu des critiques qui sont d'ordre rationaliste. Donc à mon sens, déjà, l'auteur de l'article, mais également Acerment d'Axe qui tient le blog, sont plutôt clairement dans cette vision rationaliste où ce qui compte, c'est la vérité, la fiabilité des sources et tout. Et donc là, on a eu des critiques qui ont dit « Super, mais votre auteur, il n'est pas spécialiste. Pourtant, ça paraît faire partie des critères importants quand même, quand on parle de pensée critique, d'inviter des personnes qui connaissent leur sujet, etc. » Et là, ce n'était pas le cas. En disant quels sont ses diplômes, etc. C'était ça qui avait été interrogé. En disant que les études sur lesquelles il se basait, elles n'étaient pas forcément très fiables. Ou alors qu'il en tirait des conclusions qui n'étaient pas correctes. Qu'il utilisait des mauvais arguments. En fait, que son raisonnement n'était pas bon. Et puis, on a eu d'autres personnes qui ont dit « Oui, mais en fait, même en dehors de ça, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais pour, enfin, qui vont carrément questionner le cadre en disant mais pourquoi vous faites cet article ? Est-ce que, en, mais même avec du coup des critiques matérialistes qui allaient dire aux gens qui avaient une vision rationaliste en disant mais pourquoi est-ce que ce qui vous intéresse c'est de débunker les mauvais arguments ? Alors que vous pensez que si ça avait été un article basé sur la science, alors dans ce cas-là, on a le droit de faire ça, en considérant que c'était un cadrage psychophobe, donc c'est-à-dire un cadrage qui renforce un peu une vision négative des troubles psychologiques, qui peut créer une forme de peur et tout, en disant que vous êtes en train de chasser des faux handicapés à essayer de vérifier dans cet article qui, un vrai trouble ou pas, c'est problématique. Et donc en réfléchissant aux implications de ce discours, parce que dans cet article, il s'agissait de vérifier, enfin en quelque sorte, ouais, de voir si certains influenceurs, influenceuses sur les réseaux sociaux qui parlent de leur trouble d'identité, dissociatif de l'identité, ont bel et bien un trouble dissociatif de l'identité. Avec cette idée que certaines personnes mentent peut-être, et qu'elles n'ont pas vraiment de trouble, et qu'elles font juste ça, et qu'elles glamourisent le handicap, et que ce serait dangereux. Et donc eux ont dit, faire ça, ça veut peut-être dire que ces personnes, elles vont se faire harceler derrière à cause de cet article, donc faites attention. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu une illustration pour montrer que même actuellement, en France, on retrouve les mêmes débats que ce qui a pu être identifié dans une littérature scientifique aux États-Unis il y a 20 ans. Donc c'est intéressant que, de toute évidence, cette tension, elle reste. Mais donc du coup, nous, on en est où là, maintenant, tout de suite ? Bon, en Belgique, je ne sais pas exactement, parce que je ne maîtrise pas assez les choses. Mais en France, ce qu'on voit, c'est que l'esprit critique, il est mis en avant notamment depuis 2015, depuis qu'il y a eu les attentats, notamment à Paris. Et donc ça va être vachement associé à ça, avec une forme d'idée, vraie ou fausse, je ne sais pas, qu'il y aurait un lien social qui se délite, qu'on n'arriverait plus à avoir un monde commun, qu'il y a un danger. Et donc, du coup, l'esprit critique, il va être mobilisé dans les textes, notamment autour de l'école, dans les programmes scolaires, comme devant viser de l'adhésion des élèves aux valeurs de la République. Donc ça, c'est ce que montre la chercheuse que j'ai citée. Donc elle a étudié les programmes scolaires et notamment avec une analyse linguistique de comment c'était mobilisé, avec quels autres mots, etc. C'est un article très intéressant. Et donc, on peut être d'accord ou pas avec ça, que peut-être, effectivement, on a peut-être besoin d'avoir des valeurs communes pour pouvoir se parler. Mais moi, je trouve ça quand même qu'il y a une tension quand même entre de dire l'esprit critique, ça doit viser l'adhésion à des valeurs qu'on n'a pas le droit de critiquer. On voit aussi que progressivement, la notion de doute, qui pourtant semble centrale dans l'esprit critique, a été remplacée par celle de confiance. On semble... Voilà, comme si l'esprit critique, c'était faire confiance, avec le slogan d'ailleurs de notre ministère de l'Éducation nationale, qui est l'école de la confiance, avec un ministre qui pourtant est assez connu pour avoir pas mal menti, notamment sur la gestion de la crise du Covid. Donc ça pose des questions. Et on a une nouvelle définition de l'esprit critique qui a été avancée par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Je dis bien nouvelle définition parce que eux, dans leur document, eux, ils considèrent que c'est une synthèse des recherches. Moi, connaissant les recherches, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, donc je considère que c'est plutôt une nouvelle définition. Et donc ils nous disent que l'esprit critique, c'est la capacité, donc plus les compétences, la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée selon l'évaluation de la qualité des preuves à l'appui ou de la fiabilité des sources. C'est un rapport en plus qui a été dirigé par une personne qui est souvent connue dans le milieu sceptique, qui s'appelle Gérald Bronner, qui est un sociologue qui s'intéresse beaucoup aux croyances, etc. Et donc moi, elle me questionne quand même cette définition de dire comment on est passé du doute à la confiance et de se dire si l'esprit critique, c'est ajuster son niveau de confiance, là, on est contre quoi ? C'est quoi le problème ? Et de toute évidence, ce qui ressort, on dirait que le problème, c'est la défiance et que maintenant, il faut faire preuve d'esprit critique contre la défiance et donc faire preuve d'esprit critique pour avoir confiance dans des autorités qui sont jugées légitimes. Donc ça peut être les scientifiques lorsqu'on est par exemple dans la crise du Covid ou d'autres. Et ça pose aussi du coup toute l'ambiguïté de c'est qui sont les autorités auxquelles il faut accorder notre confiance. Et une fois qu'on a accordé notre confiance, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a le droit de la retirer ? Est-ce qu'on a le droit de critiquer même si on fait confiance ? Là, c'est un peu ouvert aux interprétations. C'est des rapports très récents et cette définition a été reprise dans le rapport Les Lumières à l'ère du numérique dont j'ai parlé au début, qui est sorti là il y a ce mois-ci en fait. Donc à voir comment ça va être utilisé ou pas, si ça va donner des choses concrètement. Et donc finalement, on en vient à se dire que l'esprit critique, c'est pas une évidence. L'esprit critique, déjà, le sens qu'on donne à ce mot, il n'est pas évident. Le besoin d'esprit critique, il n'est pas évident. Il demande d'être questionné, de dire si on veut développer l'esprit critique des gens, c'est quoi notre motivation ? Il y a des enjeux en fait, qui sont sociaux et politiques depuis le début, puisque quand on parlait de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, y avait cet enjeu. Quand on disait que l'esprit critique, c'était doter les citoyens de compétences pour ne pas se faire avoir par la publicité et la propagande. C'est un enjeu social et politique fort. Enfin, de la même manière, quand on leur dit qu'ils doivent un peu plus penser comme des scientifiques parce qu'ils se font avoir par des charlatans ou par des gourous, bah, c'est aussi qu'on estime que l'une des solutions à ce problème des charlatans et des gourous, c'est de se focaliser sur les citoyens. Alors peut-être que c'est une part de la solution. Hein. Clairement, ça peut être une très bonne idée. Mais c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on vise. Parce que, à mon avis, si on n'est pas conscient des enjeux, si on ne réfléchit pas à ce qu'on veut faire, on risque d'avoir une forme de récupération et une forme peut-être d'instrumentalisation de choses qu'on pensait être correctes et qu'on pensait aller dans le bon sens. Donc voilà, moi je pense que voilà, au sein des milieux sceptiques, zététiques, où ça nous semble être quelque chose de très important, bah, ça vaut le coup qu'on se repose dessus, de dire qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est quoi notre but quand on parle d'esprit critique, qu'est-ce qu'on vise comme projet de société ou projet individuel pour les personnes avec lesquelles on interagit. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Donc moi, ma question, c'était plutôt, est-ce que la définition de la commission Bronner, est-ce que c'est pas une sorte de cadrage, on va dire, de la définition complète, c'est une petite partie seulement de la définition complète de l'esprit critique au niveau rationaliste, en fait, c'était plutôt ça ma remarque, c'est-à-dire ils se sont concentrés sur... On va dire, ce que j'appellerais, moi, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais l'heuristique, donc le fait de pouvoir identifier si une source est fiable ou pas, et ils auraient cadré que là-dessus. Est-ce que c'est ça, du coup, le...
Bah, à mon sens, c'est un peu ça, effectivement, en disant qu'on est passé d'un ensemble de compétences et de dispositions à la capacité d'ajuster sa confiance. Alors, ça peut avoir un intérêt, ce genre de définition, effectivement, comme je disais, pour des activités pédagogiques, où on se dit, c'est un peu aussi ce qu'ils défendent, de dire c'est une définition qui est minimale, mais au moins comme ça, on a l'impression que c'est un peu plus réaliste. Parce que c'est vrai que quand on arrive avec des longues listes de compétences et tout, ça paraît large. Et en même temps, moi, je vois un risque, du coup, à trop le restreindre, parce que, bah, comme vous le dites, bah, on a pris un seul petit aspect et on a enlevé tout le reste. Et du coup, par exemple, analyser des discours, comprendre qui les émet, quels sont leurs effets et tout, bah, c'est pas dedans du tout, quoi. Donc moi, moi, ça me dérange dans ce sens-là, où je pense qu'ils auraient pu, en fait, un peu plus faire le tour de la... Enfin, un peu plus présenter ce qu'il y a dans la littérature et dire... On fait le choix consciemment de prendre que cet aspect, comme ça au moins ça donne au lecteur la connaissance du choix qui a été fait. Et là c'est pas le cas. La façon dont ça arrive dans leur rapport, c'est juste voilà la définition.
Est-ce que l'enjeu de l'esprit critique n'est pas beaucoup plus large que ça, à savoir garder notre démocratie, puisque dans une démocratie, chaque citoyen a une voix, et donc c'est aider le citoyen à avoir une bonne, enfin pas une bonne vision, parce que c'est péjoratif ce que je dis, mais une vision correcte des choses, et donc utiliser sa voix de manière correcte également.
Alors ça c'est très possible, mais c'est vrai que bah, du coup, en tout cas dans les recherches que j'ai vues, ça parle rarement de vote. Il y a parfois ce thème de la citoyenneté qui revient. Mais bon, enfin, moi je suis totalement d'accord avec le fait que c'est un enjeu extrêmement important aussi. Mais du coup il y a aussi cette question de peut-être de cadre, où on reste un peu sur très focalisé sur l'individu, etc. Un peu seul face à sa rationalité pour aller voter, etc. Donc il y a de toute façon un enjeu super complexe quand on parle de démocratie, parce que là il y a tellement de choses à prendre en compte que...
Merci pour ta conférence. Est-ce que tu as fait un lien avec l'analyse rhétorique du discours, dans notamment la dernière partie où tu parles de matérialisme et j'ai oublié le mot. Parce que souvent dans l'analyse du discours rhétorique, en fait, on dit mais quels sont les fondements de ce que je dis et quelles sont les conséquences de ce que je dis, qui pour moi se relient complètement à ça. Je ne sais pas quels sont les ponts.
Alors, je ne sais pas si c'est l'analyse rhétorique, parce que dans l'analyse rhétorique, on est peut-être moins dans les conséquences, etc. Là, on est plus dans une analyse argumentative, je dirais. Parce qu'en général, c'est deux champs qu'on a tendance, des fois, dans le langage commun, à mélanger, mais qui est un peu différent. Parce que dans l'argumentation, on est plutôt sur les raisons, le raisonnement, les conséquences, alors que la rhétorique, par exemple, si on analyse un argument dit fallacieux d'un point de vue rhétorique, on va juste regarder comment il marche, quel effet ça a de persuasion, etc. Et on se fiche un peu du raisonnement. Et donc c'était de savoir si j'avais fait donc une forme d'analyse, en tout cas du discours, sur les discours matérialistes, c'est ça ?
S'il y avait un lien peut-être entre cette vision de la critique matérialiste et de la critique...
Ouais. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de sous-courants là, dans les visions un peu matérialistes, et je ne les connais pas assez. C'est aussi pour ça que je les présente à la fin. Parce que moi-même, j'en suis un peu là dans ma propre recherche bibliographique, quoi, c'est super large, mais c'est des enjeux, en tout cas, sur lesquels certains vont beaucoup se focaliser, effectivement, de voilà, les implications des discours, etc. Et du coup, forcément, on va être sur ça. On va être aussi beaucoup de questionnements et de recherches sur les connotations des mots ou l'utilisation d'un mot et comment il peut masquer certaines choses. Par exemple, voilà, c'est des choses qui, un exemple qui revient souvent, c'est par exemple quand on parle de cotisation sociale ou bien de charge patronale ou, autre, ou alors de salaire indirect. On parle de la même chose, mais avec trois termes très différents qui ne donnent pas du tout le même cadrage. Et donc, par exemple, quand on parle de biais de cadrage, par exemple, bah, ça, c'est quelque chose qui, par exemple, qui, pourrait, qui peut rejoindre un peu les deux approches, par exemple.
D'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Je ne pensais pas voir ça ce soir et j'ai été très agréablement surpris et enthousiasmé. Et alors, ma question, j'espère que j'ai bien la formulée parce que j'ai beaucoup réfléchi au terme que je voulais utiliser. Mais j'ai beaucoup aimé votre partie sur l'opposition, si on peut dire, entre esprit critique rationaliste et esprit critique matérialiste. Et en fait, moi, ça m'a fait penser. Alors, comment dire, c'est un peu compliqué à dire, je vais essayer de trouver ça correctement. Par exemple, on entend beaucoup parler en ce moment de l'idéologie woke, qui serait en fait l'idéologie matérialiste, et qui serait venue des États-Unis. Bon, il se trouve que c'est un terme très vague qui veut dire ce que chacun veut lui dire, faire dire. Mais je trouvais ça intéressant, je me suis demandé. À quel point notre universalisme, alors je dis on n'est pas en France, excusez-moi, l'universalisme à la française qui se rangerait du côté rationaliste s'oppose en fait à au matérialisme, donc à l'individualisme dans le sens où on s'intéresse vraiment aux individus, chacun à leurs propres valeurs. Est-ce que ce parallèle entre ces deux types d'esprit critique et ces deux types de conception de la société, est-ce que c'est un parallèle qui vous paraît logique et cohérent? Et si on n'insiste pas en ce moment justement à un conflit avec la mondialisation des réseaux et des communications, justement entre ce qui se passe, pour simplifier, aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Je ne sais pas si je suis très clair.
Cette
question plutôt, c'est qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un parallèle qui peut se faire et voilà.
Ouais. Bah, la question un peu du wokisme, effectivement, ou avant c'était l'islamo-gauchisme, avant il y avait encore d'autres termes, effectivement, je trouve qu'elle est très intéressante. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, moi, ça, c'est des données que je vois dans ma thèse, plutôt avec des enseignants, c'est qu'on peut avoir des personnes qui ont, en fait, à cœur des idéaux qui sont d'égalité, qui font attention à tous ces enjeux, et qui en même temps qui peuvent avoir une vision rationaliste, parce que c'est pas non plus incompatible. Il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale. En fait, justement, en plus, cette vision un peu rationaliste, elle est un peu compatible avec tout. Et c'est ça qui fait, à mon avis, qui peut faire sa force d'un point de vue pédagogique. Et moi-même, en fait, quand je présente des recherches sur l'esprit critique, par exemple, dans des formations pour des médiateurs, je vais plutôt me focaliser sur cette vision-là parce qu'elle est plus consensuelle, elle est plus facile aussi d'un point de vue pédagogique parce qu'on sait un peu ce qu'on vise, alors que la deuxième, c'est sûr que là, on assume clairement un positionnement politique fort dès le début. Et même là, il y a eu plein de clashs. Enfin, ce qui est aussi, c'est un peu une divergence, enfin, je diverge un petit peu, mais ces deux approches, ce qui est intéressant, c'est qu'elles elles ont reçu des fois la même critique par les mêmes personnes, qui sont les féministes, qui sont venues dire aux rationalistes, à un certain moment, de dire vos recherches, c'est avant tout fait par des hommes blancs, entre eux, etc. Et vous vous intéressez pas, peut-être, à d'autres manières de voir les choses, d'envisager les choses, d'envisager la réflexion, qui sont plus, peut-être, qu'on voit plus du côté des femmes parce qu'elles ont été socialisées différemment, pour plein de raisons. Et les matérialistes, ça a été la même chose avec, par exemple, Paolo Freire, qui au départ était vraiment cette idée de lutte des classes, etc. Et puis, finalement, après, dans son foyer, si c'est sa femme qui lave ses chaussettes, c'est pas si grave. Donc je parle pas de, lui spécifiquement, mais c'est le genre de critique qu'il y avait. Je trouvais ça intéressant de dire les deux se sont fait critiquer de cette manière-là. Les deux ont évolué aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi cette question même qui est complexe de dire, au sein de ces deux courants, il y a plein de divergences et de gens qui ne sont pas d'accord. Et en plus, ça a évolué dans le temps parce qu'évidemment, depuis les années 30, on en a fait du chemin. Mais voilà, clairement, du coup, la vision rationaliste est plus compatible avec une forme d'universalisme, alors que la deuxième, non. Et c'est aussi une des critiques, à mon avis, légitimes qu'on peut lui faire, c'est de dire, mais il y a ce genre de pensée critique ou de... disait de conscience critique, qu'est-ce qu'on fait quand on est avec des personnes qui sont dans une situation sociale très avantageuse? Pourquoi elles auraient ça les intéresserait, ces enjeux-là, en fait? Et de dire, et comment on fait à part leur dire, t'es dans une position de dominant, donc ce que tu dois apprendre à faire, c'est à t'effacer pour laisser la place aux autres. Bon, c'est... Voilà, on peut arriver un peu à ces choses-là.
La question ici.
Ouais. est-ce que c'est pas, est-ce qu'il y a pas moyen aussi de voir dans cette opposition deux formes, enfin deux processus de raisonnement, un processus d'analyse et un processus de synthèse. Donc l'analyse, ce serait le côté rationaliste, parce qu'en fait on va aller chercher décortiquer les trucs pour vérifier si dedans il y a un problème. Et l'autre serait plus synthétique dans le sens où on va prendre du recul et avoir une vision globale qui prend en compte le fonctionnement dans lequel on se place et tout.
Il y a effectivement plus une question, on va plus s'interroger sur le cadrage, effectivement, dans la deuxième vision. Mais pour autant, on peut avoir ce côté un peu de décortiquage, etc., quand même avec une vision un peu matérialiste. Et je pense par exemple à des choses qui sont intéressantes dans la recherche où il y a tout le développement en sciences sociales, ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, des choses comme ça qui assument une certaine subjectivité du chercheur plutôt qu'essayer de chercher une neutralité. Donc des fois ça a des savoirs intéressants, il y a d'autres choses qui sont critiquables, mais voilà. Et il y a eu beaucoup du coup de recherches qui avaient par exemple un fondement féministe assumé dès le début. Et qui disent, oui, mais en fait, si on voit les choses en féministe, est-ce qu'on voit autre chose? Est-ce qu'on va voir des enjeux qu'on ne voyait pas avant? Et donc, il y en a qui disent, c'est un positionnement politique, le chercheur, il ne doit pas être militant, vous ne devez pas faire ça. Mais en même temps, ça a aussi donné des choses intéressantes, par exemple, des réflexions sur les métaphores qui sont utilisées quand on parle de procréation. Et donc, ça a remis en question des petits bouts de la biologie, où, par exemple, on avait tendance à considérer un peu par défaut que par exemple, l'ovule, il attend, il est passif, et voilà, il se fait attaquer par les spermatozoïdes, etc. Et de dire, mais en fait, est-ce que ce n'est pas une métaphore qui nous vient d'une vision, de notre vision genrée de la société où la femme, elle doit être passive, etc. Est-ce qu'on n'a pas plaqué des raisonnements sociaux sur un fonctionnement biologique et que du coup, ça nous empêche de penser? Et donc là, pour moi, c'est une vision qui peut être un peu plus matérialiste. Et un chercheur qui a travaillé dessus, je crois qu'il s'appelle Thierry Hockey, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, son bouquin, il s'appelle « Des sexes innombrables », où il fait un peu un résumé de ces enjeux-là, si ça intéresse des personnes. Je trouve que c'est très, très intéressant.
Merci aussi pour cette présentation. Je voulais revenir un petit peu sur le point qui avait été approché par rapport aux enjeux vis-à-vis de nos démocraties. Le corollaire, moi je dirais, c'est aussi l'éveil de nos plus jeunes vers un âge adulte où ils seraient un peu plus responsables de leur prise de décision. Et du coup, ma question, c'est celle-ci. Où est-ce qu'en est la recherche au niveau de l'enseignement? Quels sont les outils que la recherche propose aux enseignants, des choses comme ça, pour justement éveiller nos jeunes à une meilleure pensée critique?
Alors, du coup, cette question, elle nécessite... Du coup, elle est liée aussi forcément aux questions des enjeux, parce que faut savoir aussi quelle forme d'esprit critique on essaye de développer. En général, les recherches plutôt sur les enfants, ils vont plutôt s'intéresser à une vision plus rationaliste ou d'autres. Une autre vision que je n'ai pas trop présentée, qui est plutôt constructiviste, où on est plutôt dans l'idée d'apprendre en faisant. Par exemple, quand on va s'intéresser aux questions des fake news, etc., on va se dire une des manières de sensibiliser, de travailler avec ça avec des élèves, ça va être de leur faire créer des fake news. Comme ça, ils vont comprendre. Ils vont pouvoir décortiquer en faisant par eux-mêmes. Ou de la même manière, ils vont créer par eux-mêmes un journal scolaire pour comprendre un peu les enjeux de l'édition et de comment on crée l'information. Donc c'est aussi d'autres manières de voir les choses qui sont intéressantes. C'est pour ça que je ne peux pas tout présenter. Et du coup, en termes d'enseignement, il y a plein de choses qui sont faites, mais qu'à mon sens, les enseignants n'identifient pas comme relevant de l'esprit critique. Donc par exemple, ces questions de leur faire créer une web télé ou un journal scolaire, ça peut être super intéressant pour leur aider à prendre du recul sur l'information. C'est génial. Mais les enseignants, ce n'est pas forcément ça qui vont associer à l'esprit critique. Rien que ça, comme il y a toujours l'importance d'avoir un minimum de connaissances, rien que ça, apprendre des choses, déjà ça va les aider, parce que si on sait rien sur rien, on peut facilement se faire avoir. Il y a des approches de plus en plus avec toutes les questions du numérique, d'apprendre à savoir ce que c'est un site web, aller regarder les pages à propos, etc. Ça se développe, il y en a de plus en plus des choses comme ça. Mais après, le problème, c'est que c'est plein de recherches un peu éparses et elles sont pas forcément, on n'arrive pas forcément à bien les mettre en lien. Des fois, on arrive plus facilement à savoir ce qui marche pas que ce qui marche, malheureusement. Et du coup, on est plutôt sur des pistes pédagogiques. Donc, des choses qu'on sait qui ont l'air un peu fiables, c'est que, en général, quand on veut développer en tout cas les compétences de pensée critique, donc les dispositions, c'est encore une autre question, mais pour les compétences, le mieux, c'est de le faire de manière explicite, de dire... On ne peut pas se dire je fais un cours de littérature et puis grâce aux connaissances du cours, les élèves vont développer une analyse du discours et vont pouvoir transposer ça dans la vraie vie. Non, on sait que peut-être que certains élèves à la longue ça va marcher, mais c'est incertain. En fait, plus c'est explicite, plus on leur dit clairement ce qu'on attend, plus en fait on les aide aussi à voir leur, enfin, à comprendre leur raisonnement, à comprendre leurs erreurs, plus ça aide. Donc là, il y a vraiment cette question de l'explicitation. Il y a le fait que ce soit explicite et que ce soit dans différents contextes. Plus on multiplie les contextes, plus il y a de chances que ça reste dans le temps et qu'on arrive aussi à le transférer de proche en proche. Parce que, de la même manière, apprendre à s'interroger sur une source et de s'interroger sur un discours en histoire, bah, ce n'est pas la même chose que de le faire dans la vraie vie. Et si on, en fait, si on veut que les élèves le transfèrent au quotidien, bah, faut qu'à un moment, on fasse ce travail avec eux, en fait, d'expliciter pour les aider à arriver à ça. Donc ça, c'est les choses qu'on sait. On sait aussi qu'il y a tout ce qui est argumentation et débat qui peuvent être très intéressants. Mais toujours une question de comment on le cadre. De dire, bah, si on les lance dans un débat sans expliciter les enjeux, ça peut ne pas fonctionner parce que une chose qui va être très importante quand on fait ça, c'est qu'ils soient dans une idée d'argumentation collaborative. En fait, qu'ils soient dans l'idée de là, on va débattre, mais en fait, le but, c'est pas d'imposer ses idées. C'est vraiment de comprendre l'autre et de se mettre ensemble pour essayer d'aller vers la meilleure solution ou essayer de comprendre un sujet ou essayer de trouver la vérité, quoi. Et donc, il y a tout un travail, par exemple, à faire avec les élèves. Et ça, les enseignants ne le savent pas forcément, ils ne sont pas forcément formés à ça. De dire, si on les met juste en situation de débat, bah, spontanément, en plus, il y a plein d'enjeux sociaux de relations de pouvoir au sein d'une classe, hein, je dis de pouvoir, mais de réputation et plein de choses avec des adolescents, d'être celui qui parle le plus fort. S'ils sont juste dans l'idée de « je vais imposer mes idées parce que c'est moi qui ai raison », bon, on ne va pas les aider à développer leur pensée critique. Donc voilà, on a des pistes. La recherche, elle en est là, mais il y a de plus en plus de recherches qui se font, donc on espère que ça ira mieux.